CJSO 101.7, La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Dans quel monde vivons-nous? À quoi ces guerres armées, tarifaires et d'égo nous mèneront-elles? Combien de territoires seront dévastés, d'États menacés, de personnes intimidées, tourmentées, tuées, blessées, de familles décimées? Dans quel monde vivons-nous? C'est pas qu'une question, c'est aussi un cri du cœur que vous entendrez ce midi de mes invités. À l'émission aujourd'hui, l'état d'âme de 7 personnes à l'égard du conflit, là, du climat mondial actuel. Gabriel Arpin, détenteur d'une maîtrise en relations internationales, sa thèse portait sur l'hégémonie chinoise dans un contexte international. Albert Kelfa, ex-député natif d'Égypte, pont entre l'Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient. Yann McClure, enseignant en histoire au cégep de Sorel-Tracy. Denis Marion, qui a fait ses études de maîtrise en sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem. Charbel Naaman, adjoint parlementaire de Louis Plamondon à Ottawa, dont, Charbel, les origines sont libanaises. Il a encore de la parenté là-bas. Sophie Pagé-Sabourin, enseignante en politique au cégep de Sorel-Tracy, et Nathalie Rochefort, ex-députée, présidente de Fondation de Gamma, un organisme dédié à l'accueil des Québécois d'adoption. Je leur parle après la pause.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La chronique d'Azimut Diffusion, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec Juliane, Cathy ou Lauriane, les mercredis à 8h15 à CJSO 101.7. Chaque semaine, on vous parle des spectacles à venir au Marché des arts des Jardins, en chansons, humour, musique, théâtre, danse, jeune public, art de la parole, en plus de vous faire découvrir notre métier de diffuseur. Soyez à l'écoute pendant l'émission Yatsé Matin pour tout connaître d'Azimut Diffusion.
Depuis que j'ai parlé de mes dettes avec Raymond Chabot, j'ai retrouvé la motivation de m'entraîner 3 fois par semaine. Ben, 2, mettons. Puis de me remettre à cuisiner, genre mon fameux macaroni triple fromage. J'ai même fini par ranger mon cabanon. Il était temps. Ouais, ça fait vraiment du bien de retrouver ses moyens.
Si vous avez besoin d'aide pour régler vos dettes, contactez-nous pour une consultation gratuite. Raymond Chabot, syndic autorisé en insolvabilité.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On a attrapé Denis Marion juste avant qu'il ne s'envole pour Istanbul. Bonjour Denis.
Bonjour Sylvain.
La question qui coiffe cette émission d'aujourd'hui, là, dans quel monde vivons-nous? Est-ce qu'elle résonne chez toi comme la question qu'elle est, ou est-ce qu'elle résonne comme un cri du cœur, un cri presque de désespoir? Comment tu vis, toi, l'actualité, le climat mondial actuel?
Oui, je pense que c'est la bonne question. Dans quel monde vivons-nous? Parce que nous devons constater que nous ne vivons plus dans le même monde que ce à quoi l'après-Deuxième Guerre mondiale nous a habitués. Et c'est assez important parce que, comme le disait McCartney dans son discours à Davos, qui, je pense, a marqué les esprits, il y a une rupture fondamentale dans cet univers dans lequel on évoluait depuis, comme je le disais, la Deuxième Guerre mondiale. Je veux juste rappeler, Sylvain, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'est le troisième grand conflit meurtrier qui a frappé l'Europe entre 1870 puis 1945, avec évidemment en surplus de la guerre qui a été absolument épouvantable en termes de morts, la Shoah, la tragédie des camps de concentration et de toutes les horreurs auprès des Juifs d'Europe à ce moment-là. Il avait été entendu après la Deuxième Guerre mondiale qu'il fallait trouver des solutions de régler les conflits, parce qu'on savait qu'il y en aurait d'autres, des conflits, mais essayer de les régler autrement que par la guerre. Et là, actuellement, on se retrouve dans un univers où les règles qui avaient été défendues, et parmi ces règles-là, il y a tout ce qui a trait au multilatéral, c'est-à-dire toutes les grandes organisations comme l'ONU et comme d'autres grandes organisations internationales qui découlent de ces accords-là, réglaient, entre guillemets, encadraient les relations entre les pays depuis, comme je le dis, depuis 1945. Donc, on est dans un autre univers où les règles ne s'appliquent plus, puis c'est évidemment extrêmement bouleversant de constater que nous entrons dans une nouvelle période avec de nouveaux acteurs qui ne respectent plus les règles qui avaient été établies.
Bon, on a l'impression qu'en effet, parce que je pense que c'est ça que vous êtes en train de nous dire, que tout va plus mal dans le monde depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Mais est-ce qu'on manque de recul quand on dit ça, ou est-ce qu'il a vraiment, Trump, exacerbé des tensions par ailleurs déjà depuis longtemps existantes?
En fait, le monde ne va pas nécessairement moins bien. Ce sont les mécanismes pour régler les conflits qui ont disparu qui font cette situation-là fait qu'on a l'impression qu'on n'a plus rien auquel s'accrocher pour essayer d'éviter ça. Mais ça n'a pas commencé avec Donald Trump. Ce qui se passe en Russie et en Ukraine avec l'attaque russe sur les Ukrainiens, sur l'Ukraine depuis quelques années, c'est aussi un recul sur la façon de régler les conflits. Donc il y a eu ces premières interventions-là. Et généralement, puis c'est là que les choses changent de façon importante, c'est que les États-Unis ont quand même servi pendant ces 80 années-là, entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui, ont servi de régulateur, entre guillemets, ils ont joué un rôle important dans l'équilibre sur la planète, en ne réussissant pas toujours, là, les conflits meurtriers, on est capable d'en nommer un qu'un autre là, depuis 1945. Là, c'est pas vrai que tout est parfait depuis 1945, c'est juste que les États-Unis jouaient un autre rôle. Et là, on se retrouve, puis encore ces jours derniers, on le voit, on se retrouve avec un président prédateur qui a une façon de mener la politique américaine complètement différente de ce que tous ses prédécesseurs ont pu faire. Et c'est ça qui est très perturbateur de la façon dont les affaires internationales sont menées actuellement, parce qu'on n'a plus de référence.
Je veux vous amener, pour la minute qui nous reste, là, au Moyen-Orient, parce que vous avez étudié, vous, à l'Université hébraïque de Jérusalem, vos études de maîtrise en sciences politiques, vous les avez menées là, de quoi?
Il y a 40 ans, Sylvain.
De 86 à 89, à peu près. Là. Mais ces trois ans au Moyen-Orient, vous ont appris quoi du Moyen-Orient?
Évidemment, l'importance stratégique que ça a, parce que le Moyen-Orient, c'est le lien entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et c'est aussi, évidemment, parmi des civilisations millénaires, ce à quoi on n'est pas habitué, nous, en Amérique du Nord, avec évidemment des passés extrêmement importants qui explique un grand nombre de choses. L'Iran n'était pas du tout aussi important à ce moment-là comme tel. Là. C'est-à-dire, on venait de vivre la révolution islamique avec Khomeini. Et à l'époque où j'étais là, moi, l'OLP était illégal. Je vivais dans un pays où il y avait beaucoup d'attentats terroristes, etc. On était dans une autre époque. Je ne reconnais plus le Moyen-Orient de l'époque où j'y étais. Évidemment, 40 ans, c'est énorme.
Dernière question, 15 secondes. Est-ce que vous pensez, Trump, qu'en pensez-vous? Il improvise, il ne sait pas trop ce qu'il fait ou il le sait fort bien?
Je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait, ce qu'il ne juge pas, ce qu'il n'est pas en mesure de juger. C'est l'impact de ses gestes. Il est incapable de voir où ses gestes vont le mener.
Merci, Denis Marion, et bon séjour à Istanbul.
Merci.
Yann McClure enseigne l'histoire au cégep de Sorel-Tracy. Bonjour, Yann.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Le défi qui vient avec l'invitation, c'est de nous livrer en 6 petites minutes là, ton éclairage sur le climat mondial, ce qui se joue dans le monde et plus particulièrement au Moyen-Orient. Comment analyser tout ça dans une perspective historique?
Ben, dans une perspective historique, je dirais que, premièrement, moi, le mot que j'emploierais, c'est une époque absolument fascinante au point de vue intellectuel, et à regarder justement les mécanismes historiques qui s'y opèrent. T'sais. Puis j'essaie de le faire le plus dépassionné possible. Mais il n'en reste pas moins qu'on sent dans l'air qu'il y a comme une sorte de ce qu'on appelait la Première Guerre mondiale, ou avant la Première Guerre mondiale, on appelait ça une psychose de guerre. Puis parfois, dans l'air, peut-être qu'on peut ressentir quelque chose. Je pense que Denis Marion l'évoquait dans son propos. Mais il n'en reste pas moins qu'on passe d'un monde qui est véritablement unipolaire à un monde multipolaire. Et là, on a des factions, des entités politiques qui sont à faire de la projection de puissance. On a la Russie qui projette sa puissance, par exemple, en Ukraine, mais pas que. On pourrait menacer d'autres pays, comme en Pologne, on est nerveux, par exemple, et dans les pays baltes. La Chine, de son côté, elle projette sa puissance, évidemment, au niveau économique. Elle lorgne Taïwan, ça c'est bien sûr, et les États-Unis, eux, sont en train de sembleraient se recentrer, essayer de créer une espèce de bloc dans une espèce de logique d'endiguement. On l'a vu avec au Venezuela, quand on est allé chercher Maduro, coupant l'herbe sur pied probablement à la Chine, qui avait des ambitions d'aller extraire du pétrole là-bas aussi. Du côté de Panama, les États-Unis s'installent à Panama maintenant, on a ravi Panama à la Chine. On parle aussi également du Groenland. Et Trump, de son côté, projette sa puissance maintenant du côté de l'Iran. Alors, Russie, Chine et États-Unis sont dans cette dynamique-là qui est relativement, peut-être pour la population qui subit les préjudices de cette projection de puissance-là, vraiment, c'est anxiogène, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est un peu ça. Mais l'ère du temps est aussi marquée par d'autres choses, je dirais, en même temps. Donc, il y a un côté multifactoriel où on a la dynamique géopolitique, mais il y a aussi une révolution qui est en marche liée à l'intelligence artificielle qui va avoir des impacts sur l'économie et sur la société éventuellement. Donc, on est dans une espèce d'effet d'entonnoir.
Je partageais à Denis, que tu as entendu, là, qui t'a précédé, l'impression qu'on est plusieurs à avoir que tout va plus mal dans le monde depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis. À quel point est-ce exact, Yann?
Je n'imputerai pas la responsabilité entière à ce gouvernement-là, qui est au personnage de Trump. Je le vois plutôt quelqu'un qui accélère l'histoire. Accélère l'histoire en prenant des décisions un peu plus impulsives. Donc, on l'a vu du côté de l'Iran, quand on se projette là-bas du côté des États-Unis, il y a quelque part que quelque chose qui peut ressembler à un peu d'improvisation. On aurait peut-être imaginé un gouvernement démocrate projeter une puissance, mais de façon différente. Mais l'Iran a toujours été un enjeu pour les États-Unis. Si on le regarde dans une perspective historique, là, alors l'Iran, les États-Unis ont fomenté un coup d'État, par exemple, là, contre le gouvernement en 1953 de Mohammad Mossadegh, qui a amené le gouvernement du Shah. En 1953. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que le gouvernement Mossadegh voulait nationaliser le pétrole. Ça ne faisait pas l'affaire des États-Unis. Mais en même temps, les États-Unis ne voyaient pas peut-être aussi la Russie ou l'URSS à l'époque aux commandes de cette nationalisation-là. Alors, c'est pour ça qu'ils ont déstabilisé le régime. Ils l'ont remplacé par le régime du Shah, qui lui, toujours dans la perspective historique, hein, va être vraiment remplacé par l'Ayatollah Khomeini en 1979. Alors, c'est la situation où là, les Moudjahidines ont combattu côte à côte avec les forces de Khomeini et se sont installés au pouvoir. Et ces forces-là de Moudjahidines étaient aussi financées et puis activées par également, vraisemblablement, l'URSS aussi qui était derrière. Donc, il y avait une dimension très, très, très extrême-gauche dans ce mouvement-là. Mais rapidement, on va voir que l'Ayatollah Khomeini va simplement liquider les forces communistes qu'ils pouvaient avoir dans cette révolution-là. Et depuis 1979, dès l'installation de l'Ayatollah Khomeini puis du régime qu'on a en Iran qui se poursuit actuellement, c'est des menaces contre les intérêts états-uniens, c'est des menaces aussi liées à on appelait les États-Unis, par exemple, le grand Satan. Alors, véritablement, l'Iran a toujours été une épine dans le pied pour les différents gouvernements, qu'ils soient républicains ou démocrates, ou de façon vraiment bipartie, là, démocrate ou républicain, était véritablement conscient que l'Iran pouvait représenter une menace.
Est-ce que tu crois, on achève, là, on arrive à la fin de notre entretien, par ailleurs passionnant, est-ce que tu crois qu'on se dirige au Moyen-Orient, Yann McClure, vers une désescalade où tu n'as pas cet optimisme-là?
Je dirais que c'est 50-50. J'ai l'impression qu'en ce moment, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et c'est ce qui me crée un petit peu d'anxiété, je dirais. Alors, on ne veut pas que le conflit s'escalade, bien évidemment. Là, avec les déclarations de Trump pour aller chercher l'île de Karg, aller chercher l'île de Karg où transige 90 % du pétrole iranien, si on fait un mouvement de troupes là, oh là là. Donc là, on aurait des chances que le conflit s'étende, qui bascule vers une crise qui est mondiale, je dirais. Maintenant, on voit là les outils du côté du Yémen viennent jouer dans la partie, ils viennent de c'est comme une carte, si vous voulez, que l'Iran vienne de sortir. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Donc, on est dans un équilibre qui est tout à fait fragile. La région représente véritablement une poudrière. Souhaitons qu'on arrive à avoir des négociations. Trump, c'est un transactionnel. J'espère qu'il va réussir une transaction qui va lui donner le sentiment qu'il a gagné quelque chose dans le secteur afin qu'il puisse se retirer. Parce qu'on sent des forces au sein du Parti républicain qui veulent absolument se retirer du conflit, notamment à travers le personnage de J.D. Vance, qui représente un petit peu plus la frange MAGA du mouvement, alors que l'autre personnage qui pousse vers des interventions, c'est celle de Rubio en ce moment. Alors, c'est pas simple, c'est absolument pas simple.
C'est pas simple, mais t'as réussi à nous décomplexifier ça un peu. Là. Merci beaucoup, Yann McClure. Merci, Yann.
Oui.
Nous allons à la pause.
La bonne nouvelle économique vous est présentée par la Caisse Desjardins Pierre de Sorel, le magazine Contact Affaires et Olivier Kia Sorel-Tracy.
Développement économique Pierre de Sorel annonce la contribution financière de la Caisse Desjardins Pierre de Sorel au Fonds local de solidarité, un outil pour appuyer les entreprises de la MRC de Pierre de Sorel dans leur projet de démarrage, d'expansion ou de relève. Cette annonce survient dans le contexte où plusieurs entreprises de la région doivent composer avec un environnement économique incertain. L'investissement de 100 000 $ de Desjardins permettra d'augmenter la contribution du Fonds de solidarité FTQ, un mécanisme qui pourrait ajouter jusqu'à 500 000 $ au capital disponible. Grâce à cet effet de levier, le FLS pourrait atteindre environ 1,6 million, offrant aux entreprises un soutien financier nettement plus important pour réaliser leurs projets. Concrètement, ça signifie que davantage de projets structurants pourront voir le jour, que des emplois pourront être créés ou maintenus et que les entreprises disposeront d'un accompagnement financier plus adapté à leurs ambitions.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse Desjardins Pierre de Sorel, le magazine Contact Affaires et Olivier Kia Sorel-Tracy.
Ce mardi, dans Valérie l'après-midi, Sylvain Rochon est là pour les informations régionales. On ouvre la boutique de souvenirs avec Jean-Pierre Gravel et on parle du Canadien de Montréal avec le journaliste Richard Labbé de 15h30.
Valérie l'après-midi, une présentation de l'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Dans quel monde vivons-nous? C'est la question que je pose à mes invités ce midi. Une question là, qui, j'en conviens, peut résonner comme un cri de désespoir. Au bout du fil, Charbel Naaman, il est l'adjoint parlementaire de Louis Plamondon à Ottawa. Ses parents sont originaires du Liban, où il a encore de la famille. Bonjour Charbel.
Bonjour Sylvain, comment allez-vous aujourd'hui?
Je vais bien. Et c'est à vous que j'ai le goût de le demander. Le Liban a été entraîné dans le conflit entre Israël et l'Iran lorsque le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur Israël pour venger l'assassinat là, du guide suprême iranien. Êtes-vous inquiet pour la famille que vous avez au Liban? Est-ce que c'est difficile pour vous de fermer l'œil la nuit, là? Comment vous vivez ça?
L'inquiétude, comment qu'on dit? On a toujours l'inquiétude. Depuis, c'est rien de nouveau pour ma famille, right? Mon père est un enfant de guerre. Ça fait la guerre. Le Liban n'est pas étranger à l'idée de guerre pendant les dernières 50 ans. Il ne faut pas oublier que la guerre civile au Liban a commencé à déclencher dans les années 75, dans les années 70. Alors, je crois vraiment que ma famille est résiliente. Ça me rassure un peu, Mais oui, beaucoup d'inquiétudes.
Alors, votre père, là, je comprends qu'il a quitté le Liban très jeune et les parents de votre mère dans les années 70, ils l'ont quitté pour échapper à la guerre civile?
Mes grands-parents maternels, pour des raisons économiques et bien sûr dans le temps, les tensions qui montent, ils voulaient quitter avant que ça s'explose. Et dans le contexte de mon grand-père était martyr pendant la guerre et alors mon père a perdu son père à l'âge de 2 ans. Et il fallait qu'il quitte à l'âge de 14 ans en bateau à Cypre. De Cypre, il est venu finalement au Québec à l'âge de 16 ans. Ma famille était par conséquent impactée de les tensions et la guerre civile au Liban.
Jean-Bel, un petit point technique. Est-ce que vous me parlez avec un main libre actuellement?
Oui, voulez-vous que...
Passez donc à l'autre mode. Je pense qu'on va mieux vous entendre. Et je poursuis avec... Pardon?
Est-ce que vous m'entendez?
Ah oui, bien mieux, bien mieux. On vous entendait, mais là, c'est bien mieux maintenant. Alors, des tensions, il en existe, Charbel Naaman, depuis des lunes au Moyen-Orient. Le fait que Trump s'en mêle, ça les exacerbe, ces tensions-là? Quel est l'effet du fait que Trump s'en mêle?
Il faut regarder l'histoire, premièrement, dans les dernières 80 années au Liban, right? Le contexte des Américains, il y a toujours, c'est pas étrange, l'idée ici, l'ingérence étrangère ici au Québec et au gouvernement, partout dans le monde, dans l'Ouest, mais là-bas, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus grande ingérence étrangère. Alors, non seulement les Américains, mais la Turquie, l'Égypte, la Syrie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Mais moi, ce que je comprends de ma famille et de l'histoire libanaise, c'est que en 1988, on a la création d'Israël, c'est bien sûr. On a vu tous les Palestiniens, des réfugiés qui rentrent au Liban. Alors, il faut comprendre que le Liban, quand il a été construit, c'est un pays construit avec plusieurs cultures, identités, sectes aussi. Et c'est construit dans cet contexte. Et aussi, il y avait un mouvement pan-arabisme de l'Égypte qui sort de l'Égypte. Alors, t'as ce conflit qui monte de là. On avance quelques vingtaines d'années, on voit une grande conflit entre les sectes, les musulmans et les chrétiens, l'Organisation de libération de Palestine, la Syrie, Israël. Et les Américains, finalement, ont éventuellement quitté le Liban en 1983 à cause de la bombe à l'ambassade de les États-Unis à Beyrouth, à cause de ces tensions. Alors, c'est rien de nouveau, mais est-ce que Trump met une allumette en dessous de cette feu? Bien sûr. On ne peut pas nier au fait que les dernières 30 jours, c'est à cause de lui et d'autres acteurs, d'ailleurs.
Alors, ce sera quoi la sortie de crise, là, vous pensez? Est-ce que vous la voyez poindre ou est-ce que ce conflit durera encore bien longtemps?
Ce conflit, j'ai pas assez de temps de vous donner la réponse d'ici à la solution, mais il faut comprendre que ce conflit est plus grand que nous. Écoute, ça fait la guerre et ça fait 80 ans qu'il y a le conflit dans cette région-là à cause de plusieurs raisons, X, Y, Z. Et cette guerre pour cette région, ça existait pendant les millénaires. Alors, je peux pas dire la solution, mais je vais dire une chose de ce que je comprends des Libanais. L'humanité est résiliente, c'est bien sûr. Et une légende, un symbole qu'on donne aux Libanais, souvent c'est le phénix, parce que souvent des cendres, on remonte, on revient des cendres, et c'est vraiment clair pour beaucoup des nationalités, des nations dans le Moyen-Orient qui souffrent en ce moment à cause de cet conflit.
Merci beaucoup, Charbel Naaman. Nos pensées vous accompagnent là, relativement à votre parenté au Liban.
Merci beaucoup, Sylvain.
Merci à vous. Albert Kelfar, qui fut député de Richelieu de 1985 à 1994, est natif d'Égypte, pont entre l'Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient. On le retrouve à Québec. Bonjour, Albert.
Sylvain, ça va bien?
Oui,
bonjour tout le monde.
L'Égypte, Albert, partage avec Israël une frontière terrestre hein, de quoi 200-250 kilomètres. Est-ce que c'est animé d'une sensibilité particulière que tu suis ce qui se joue au Moyen-Orient?
Effectivement, c'est très dangereux à l'heure actuelle. L'Égypte n'intervient pas dans le conflit d'une façon directe. Elle participe indirectement dans la négociation de paix. Cependant, comme vous le savez, l'Égypte elle a eu plusieurs guerres avec non-succès en 48, en 56, en 69. La seule victoire réelle qu'il y a eu, c'était en 73, mais ça a été arrêté pour reprendre le Sinaï. Actuellement, c'est vraiment très dangereux. Puis l'ensemble du territoire est menacé d'une explosion militaire d'une façon terrible. Juste regardons ce que Israël a fait avec Gaza et ce qu'elle fait avec Beyrouth. C'est quasi criminel. J'ai peur, bien sûr, qu'une chose pareille arrive en Égypte.
Oui, alors tu le disais, l'Égypte adopte une position d'équilibre prudent dans le conflit irano-israélien. Elle privilégie, pour éviter la régionalisation du conflit, le dialogue, la diplomatie. La possible retombée de drones ou de missiles iraniens aussi sur le sud du Sinaï,
C'est pas à exclure,
c'est ça? Ça t'inquiète? Est-ce que tu as toujours de la famille, toi, en Égypte?
J'ai une cousine au Caire qui est aussi âgée que moi, mais c'est tout. Mais ça me fait mal au cœur de savoir que l'Égypte pourra être affectée, bien sûr. Puis j'espère que le Canada n'intervient pas dans ce conflit aussi. C'est pas notre conflit, c'est le conflit que Monsieur Trump a décidé avec Monsieur Netanyahou de démarrer un conflit pour des raisons X, Y, Z, que Dieu seul le sait. C'est pas humain. Je trouve pas un qualificatif. Réellement, je trouve pas un qualificatif. Sauf que c'est triste. Hein? Ça m'attriste. Puis j'ai peur du futur.
Bon, je vais avec ma question générale, Albert Kelfa. Dans quel monde vivons-nous? Combien de territoires seront dévastés, d'États menacés, de personnes intimidées, tourmentées, tuées, blessées, de familles décimées? Comment vois-tu une fin ou quelle fin vois-tu à tout ça?
Oh, je ne sais pas si j'avais une boule de cristal, mais c'est très inquiétant. Monsieur Trump, depuis son arrivée, il a mis le bordel à travers le monde entier. Il a mis des ennemis à travers le monde entier. Juste le principe de changer son ministère de défense de ministère de défense à ministère de guerre, c'est révélateur. Donc, il veut avoir une expansion et penser à annexer le Canada, le Groenland et peut-être Cuba, on ne le sait plus. On sait plus où ils s'en vont. C'est inquiétant.
Ouais, alors Donald Trump, là, qui était irrité de ne pas recevoir le prix Nobel de la paix, toi, tu trouves que c'est quoi? C'est une grosse blague, ça?
C'est une farce monumentale. Comment peut-on accorder un prix Nobel à celui qui tue des milliers à tous les jours?
Albert Kelfa, je vous remercie. Je vous souhaite un bon séjour là, dans notre capitale nationale.
Merci beaucoup et à bientôt.
Merci Albert. Nous parlions plus tôt à Yann McClure, enseignant en histoire au cégep de Sorel-Tracy. Nous y joignons une autre enseignante dont la matière est la politique, Sophie Pagé-Sabourin, au bout du fil. Bonjour Sophie.
Bonjour.
J'ai envie de commencer en te demandant si tu as une pensée particulière pour les femmes et les enfants qui vivent ces guerres. Bon, il y a le Moyen-Orient, il y a l'Ukraine en Europe de l'Est, il y a des guerres au Soudan, au Myanmar, en Afrique, en Syrie. Il y a plus de 130 conflits armés recensés dans le monde. Est-ce que tu as une pensée particulière, toi, pour les femmes, les enfants et les victimes civiles?
C'est ça. Je pense que dès qu'on réfléchit à des conflits armés, on pense toujours aux civils en premier. Puis l'Iran particulièrement, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de manifestations pour le droit des femmes. C'est une situation bien mitigée, là, l'Iran présentement, parce qu'évidemment, on déplore l'attaque de Trump et de Netanyahou, mais en même temps, on sait que c'est pas le régime le plus progressiste non plus. Là. On sait qu'ils ont réprimé beaucoup de manifestations, que les femmes ont peu de droits, qu'ils en revendiquent d'ailleurs beaucoup. Donc, c'est sûr que ça rend la situation là, bien délicate.
Y aurait-il moins de guerres s'il y avait plus de femmes chefs d'État et moins de théocratie, là, tu faisais allusion, de théocratie autoritaire?
Ah, ben là, c'est sûr que les théocraties, en général, c'est peu pour les libertés civiles. Pour est-ce que les femmes comme chefs d'État, ça serait mieux? Difficile à dire. On peut regarder Giorgia Meloni en Italie, c'est pas non plus la femme la plus progressiste de l'histoire. Là. Margaret Thatcher non plus. Fait que tu sais, c'est difficile de positionner les femmes là seulement sur un spectre, mais c'est sûr qu'on pourrait penser que la partie de discussion, consultation serait plus utilisé, plus mis en valeur.
Une question bien générale là, qui va te permettre de me livrer ce que tu as envie de me livrer ce midi. Tu as sans doute préparé quelque chose. À quoi ces guerres armées, tarifaires et d'égo nous mèneront-elles, Sophie Pagé-Sabourin? Quel est votre état d'âme, vos états d'âme par rapport à ces conflits puis au climat mondial? Là?
Ah ben c'est sûr que c'est très inquiétant, cette insécurité-là. Puis même si on n'est pas impliqué pour l'instant dans ces conflits-là, on voit déjà des répercussions économiques qui, généralement, ben appauvrissent davantage les plus pauvres. Si on regarde juste l'essence, le prix des aliments qui va augmenter, l'inflation, ben ça touche déjà les familles qui sont déjà défavorisées, qui ont déjà de la misère à fonctionner là avec notre situation économique. On a vu le chômage augmenter, donc je trouve ça bien inquiétant. Donc c'est sûr que c'est pas une période là remplie d'espoir avec penser à tous les feux de forêt qui vont arriver cet été encore. On a mis les changements climatiques un petit peu de côté là depuis l'arrivée de Trump parce qu'on voit des menaces plus près, mais il faut pas oublier que ces autres menaces-là vont nous rejoindre éventuellement aussi. Là.
Est-ce que tu sens chez tes élèves, tu enseignes la politique, je disais, là au cégep de Sorel-Tracy, est-ce que tu sens une grande anxiété chez tes élèves? Est-ce qu'ils suivent ça de près, là, la situation, par exemple, au Moyen-Orient, puis entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce que ça, ils ont beaucoup d'intérêt pour ça?
Ben, moi, je donne un cours de politique internationale et il est toujours bien rempli, ce cours-là, et c'est un cours option. Donc, visiblement, ça intéresse les gens, ces sujets-là. Mais ce sont des sujets très complexes qu'ils n'ont jamais abordés auparavant. Donc, c'est ça, c'est difficile à comprendre là, pour monsieur, madame, tout le monde. Là, par exemple, différencier les chiites, les sunnites, tout comprendre le réseau d'alliances, etc. Mais oui, je sens un certain intérêt. Par contre, on le sait que les jeunes s'informent de moins en moins sur l'actualité, hein, surtout depuis que Meta a bloqué les informations sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., l'information se rend moins à cette population-là.
On se sent plus concerné, par ailleurs, parce que notre voisin américain là, et son président ont les deux pieds dans plusieurs de ces conflits-là.
Oui, tout à fait. C'est juste à côté de chez nous. Puis on en parle constamment dans les médias. Je pense que ça doit être une conversation que les gens ont souvent au souper également. Là, c'est quelque chose qu'on parle. On parle beaucoup plus des États-Unis que de la guerre au Soudan, qui pourtant est la pire crise humanitaire selon l'ONU. Mais on parle beaucoup plus de ce qui se passe présentement en Iran parce qu'on a des impacts économiques directs.
Est-ce que tu es optimiste ou très pessimiste par rapport à la suite des choses?
Mais bizarrement, j'ai été encouragée par certains résultats aux États-Unis. On a vu que en Floride, le comté de Trump, là où il y a Mar-a-Lago, a tourné démocrate. On a eu une élection partielle aussi au Texas qui est tombée démocrate. Donc, ce sont quand même des signes annonciateurs là que les élections de mi-mandat vont être très, très, très corsées pour les républicains cet automne. Puis, je pense que si les prix de l'essence, s'il y a des morts de soldats américains, on s'en va vers un congrès majoritaire démocrate. Là. Donc, ça me rend un peu plus rassurée, maintenant.
Très bien. Merci beaucoup, Sophie Pagé-Sabourin. Merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci. Bye.
De l'autre côté de la pause, Gabrielle Arpin et Nathalie Rochefort.
Chers rénovateurs et surtout chers vous qui avez un beau patio, mais rien pour mettre dessus. Pratique Morin annonce à grande vente, vous avez un beau patio, on a tout pour mettre dessus.
Bon, un autre vent.
Oui, madame, mais c'est pratique. Pendant la grande vente, vous avez un beau patio, on a tout pour mettre dessus. Pratique Morin vous offre une remise de 20% en carte cadeau sur presque tout achat de 100$ au plus. Du 3 au 6 avril, c'est la grande vente.
OK, je pense qu'on a compris, là.
Pratique Morin, c'est vraiment Patrick. Certaines conditions s'appliquent, mais ça, c'est moins Patrick.
La vente étiquette rouge est de retour. Découvrez le Toyota BZ 2026 prêt à prendre la route avec encore plus d'autonomie pour aller toujours plus loin. Encore plus de puissance pour une expérience de conduite exaltante. Et un temps de recharge rapide optimisé avec le préconditionnement de la batterie. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 12 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
La Tribune, qui vous a habitué à un contenu très local, élargit ses horizons ce midi avec une question à résonance planétaire. Dans quel monde vivons-nous? Je la refile, cette question, à Gabriel Arpin, détenteur d'une maîtrise en relations internationales. Bonjour, Gabriel.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien. Votre essai, ton essai, je veux te tutoyer, de maîtrise portait sur l'hégémonie chinoise dans un contexte international. On a pas abordé ça beaucoup ce midi. Puis c'est une donnée importante, hein? L'Iran, où M. Trump donne un coup de main à Israël, détient, comme le Venezuela, d'importantes réserves de pétrole pour la Chine.
Oui, bien effectivement, en fait, c'est que derrière tout ça, tu sais, il y a le caractère très intense et imprévisible de Trump qui, je le connais pas personnellement, évidemment, là, mais qui, je ne crois pas, est un grand stratégiste international. Mais par contre, il y a une équipe derrière lui là, qui a beaucoup d'expérience au sein du gouvernement américain, qui voit que la Chine prend de plus en plus de place sur la scène internationale, par exemple en Afrique, au niveau du développement. C'est la Chine en ce moment qui prédomine. Là. Les États-Unis sont beaucoup moins d'actualité qu'au courant de la guerre froide au niveau de l'aide au développement, ce qui fait que la Chine bénéficie d'alliés économiques de plus en plus puissants au niveau de l'Afrique, notamment au niveau du pétrole. Ce qui n'est pas une chose que les États-Unis ignorent. Par exemple, au Venezuela, c'était un grand fournisseur de pétrole pour la Chine. Les États-Unis ont repris, entre guillemets, le contrôle du Venezuela pour reprendre les raffineries et le pétrole. Et en Iran, c'est plus ou moins la même chose. L'Iran, c'est un grand fournisseur de pétrole pour la Chine. Et les États-Unis tombent en guerre. Ben, Trump dit que c'est pas une guerre, mais on s'entend tous pour dire que c'est une guerre. Pour justement aller chercher un lien stratégique avec le pétrole. Donc, c'est une conclusion qui peut sembler assez logique de faire, oui.
Alors, peut-être pas si incohérent que ça, le président américain. Là. Tu dis pas un grand stratège, mais c'est pas de l'incohérence tout ce qui se passe actuellement là, vu de l'angle que tu nous soumets là.
Exact. Bon, moi, je suis pas un grand fan de donner des crédits stratégiques internationaux à Trump, mais du moins du niveau politique américain, c'est sûr qu'il y a une stratégie de ce côté-là. Quelque chose. La raison pourquoi je dis que Trump c'est pas le plus grand stratège, c'est que contrairement aux États-Unis, depuis plusieurs années, la Chine a emmagasiné beaucoup de litres de pétrole, beaucoup de barils de pétrole en préparation à une crise comme celle qu'on est en train de vivre. Quand le baril était beaucoup moins cher, la Chine a fait des réserves là, très importantes pour être capable de subvenir à ses besoins pendant une longue période, malgré un climat politique tendu. Ce que les États-Unis n'ont pas fait sous le régime depuis l'élection de Trump, depuis les deux dernières années, ce qui fait que les conséquences du blocage du Détroit sont beaucoup plus importantes au niveau économique présentement pour les États-Unis, ce qui met une pression aussi au niveau des décisions. Là.
Alors, il joue, M. Trump, un jeu dangereux dans cette guerre armée au Moyen-Orient, comme dans ces guerres tarifaires?
Oui, exactement. Bien, en fait, c'est qu'on vit un changement de paradigme international dans le sens, nous, on a connu la guerre froide. Après ça, la fin de la guerre froide a mis une pause sur l'espèce de dualité mondiale entre l'URSS et les États-Unis. Les États-Unis étaient comme le seul grand joueur d'importance pendant quelques décennies sur la scène internationale. Et là, maintenant, la Chine se positionne un peu comme le deuxième gros joueur. Et dans un monde où la Chine prend de plus en plus d'importance au niveau économique, mais aussi politique, on voit Trump qui met des tarifs à ses alliés, donc qui repousse ses alliés vers la Chine, ce qui renforce la force des échanges commerciaux avec la Chine, ce qui pourrait être vu aussi comme d'un mauvais œil là, au niveau stratégique. Par contre, je pense pas, là, si vous me laissez élaborer un peu sur ce sujet-là.
Oui, vas-y, là.
Je pense pas qu'on se dirige vers une autre deuxième guerre froide, là, à proprement parler, opposant le premier monde, le deuxième monde et le tiers monde. Parce que les pays du tiers monde, premièrement, ils n'ont pas le même statut qu'à l'époque, ils sont beaucoup plus développés économiquement. Donc, moi, je pense qu'on, tranquillement, on se tourne vers un premier monde, ou appelons-le le monde de la Chine, le monde des États-Unis. Et comme notre fameux premier ministre Mark Carney l'a expliqué, un monde où les économies de moyenne taille s'allient ensemble et essaient de faire un peu des échanges avec les États-Unis ou la Chine. Donc un monde partagé en trois, mais beaucoup plus équitable là, qu'on l'a connu là, au moment de la guerre froide.
Ça fait ce climat mondial monter l'anxiété là, de bien du monde. Là.
Ouais,
puis là, je nous ramène au Québec, là, puis à l'indépendantiste québécois que tu es, puis au probable candidat du PQ que tu pourrais être.
Oui.
Bon, les sondages baissent là, au Québec en faveur ils étaient très favorables au Parti québécois, ils le sont moins dans l'électorat général. Bon, chez les francophones, il y a encore une bonne majorité de Québécois là, qui ont l'intention de voter Parti québécois. Mais est-ce que ce climat-là, j'arrive à ma longue, il y avait un long préambule, j'arrive à ma question, est-ce que ce climat-là n'est pas préjudiciable au projet de Paul Saint-Pierre Plamondon de tenir un référendum sur la souveraineté?
Bien, c'est sûr que pour les Québécois, je crois qu'il y a un climat de tension. Tu sais, quand on entend M. Trump menacer d'envahir le Canada, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui entendent la souveraineté du Québec, puis ils sont. C'est légitime d'être apeuré par le fait que Trump voudrait peut-être envahir un Québec indépendant, etc. Là je réfléchis tout
haut.
Moi, c'est pas mes analyses à moi, c'est simplement des analyses que les gens pourraient se faire. Puis c'est légitime de se poser ces questions-là parce que dans le monde dans lequel on vit, surtout avec la présidence Trump, tout est un peu incertain. Il n'y a pas de stabilité internationale, il n'y a pas de stabilité non plus. Tout est incertain, tout peut changer à la lueur d'un seul tweet. Donc, c'est normal que les Québécois sentent une certaine tension par rapport à ça. Puis je pense que le Parti québécois, justement, a un travail à faire de ce côté-là, de rassurer les gens par rapport à ce climat incertain-là et justement expliquer clairement comment la souveraineté peut bénéficier à une certaine stabilité. Donc, je pense qu'il y a un gros travail de vulgarisation par rapport à ça, justement, pour expliquer c'est quoi les enjeux, parce qu'il y a des enjeux qui sont présents, il ne faut pas les nier, mais comment la souveraineté les adresse et comment ça peut bénéficier au Québec.
Merci beaucoup, Gabriel Arpin. Merci de nous avoir accordé cet entretien.
À vous.
Merci. Le dernier son de cloche ce midi sera celui de Nathalie Rochefort, ex-députée dans la région de Montréal, présidente de Gamma Fondation, un organisme dédié à l'accueil des Québécois d'adoption. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous avez chez de Gamma Fondation concouru à l'accueil de réfugiés de guerre et de gens qui ont fui des climats politiques instables pour trouver au Québec davantage de paix et de sérénité?
Oui, tout à fait. Ce n'est pas la grande majorité des gens qu'on accueille, mais on en a régulièrement. Je pense entre autres à une famille qui a vécu pendant plus de 5 ans dans un camp de réfugiés, qui est arrivée au Québec, tout démunie, sans parler le français, sans parler anglais, et qui s'est vu retirer ses enfants par la DPJ parce que les sociales n'étaient pas les mêmes.
Ouais, ces gens-là arrivent ici, j'imagine, là, traumatisés parce qu'ils ont traversé, inquiets pour celles et ceux qu'ils laissent derrière eux?
Bien sûr, c'est normal. Comment ne pas être inquiet alors que tu sais que tu laisses une partie de ta famille dans un camp de réfugiés? C'est dans des conditions pratiquement insalubres.
À la question dans quel monde vivons-nous, que répondriez-vous? Comment vivez-vous ça, vous, le climat mondial actuel? C'est quoi votre état d'âme par rapport à tout ça? Puis là, je vous laisse le crachoir, là.
Ben, écoute, moi, je me raccroche au civisme. J'en suis rendue à me dire qu'on devrait ramener dans les cours, dans les classes, aux primaires, ce qu'on avait à mon époque, les cours de bonne manière. C'est-à-dire dire merci. C'est des trucs de base qu'on semble avoir complètement oubliés comme individu. Ça a l'air tout con, mais quelqu'un te tient à la porte, ben, dire merci, ça ne coûte rien.
Là, j'essaie de faire le lien avec les guerres armées, tarifaires et d'égo dont nous nous demandons aujourd'hui à quoi elles vont nous mener.
Ben, en fait, ça commence dans notre propre cour aussi. Je regarde un enfant qui se fait agresser dans une cour d'école. Ben, c'est aussi, ça fait partie des petites guerres dont on parle peu ou pas assez. Donc, on doit commencer avec ça. Je sais que le climat d'insécurité mondiale amène des gens plus stressés, à être plus agressifs. Mais à un moment donné, on doit, comme collectivité, comme individu, se prendre en main. J'ai longtemps eu peur qu'on soit au bord de la Troisième Guerre mondiale, je ne le cache pas, avec tout ce que Donald Trump fait. Et je ne suis pas encore convaincue qu'on a passé le cap. Mais en même temps, on se voilera pas la face, on est dans une société quand même pacifique au Québec, de façon générale. Mais je reviens, ça commence dans notre cour aussi.
Parce que vous observez que, bien qu'on soit dans une société dont vous dites qu'elle est pacifique, nous sommes de moins en moins entre nous pacifiques et civilisés.
Oui, malheureusement. Je pense à une dame qui m'a tenu la porte, une dame d'un âge certain qui avait ouvert la porte et qui me l'a tenu pour le temps que je sorte avec mes courses. Quand je lui ai dit merci, elle m'a regardé comme « Mais pourquoi? Vous m'avez tenu la porte, madame, c'est gentil. » Je pense que j'ai fait sa journée juste à l'éclat qu'il avait dans ses yeux comme... C'est des petits gestes du quotidien qui vont faire une grande différence. L'entraide, on doit miser là-dessus aussi. Parce que au-delà des gens qui sont dans des zones de conflit, on doit penser aussi aux gens qui sont démunis autour de nous et s'entraider. Tu vois, cet après-midi, avec De Gamma, j'ai des bénévoles qui vont porter des meubles à une famille immigrante qui a tout perdu dans un incendie, alors qu'il n'y avait déjà pas beaucoup. Mais ces petits gestes-là, faits par des bénévoles, qui n'attendent pas de reconnaissance, qui attendent juste un merci. Je sais que ça a l'air utopique.
Non, mais je comprends. Vous allez là, construire une société plus bienveillante. C'est contribuer à la paix, là.
Exactement. Et d'arrêter de traiter l'autre qui est pas comme qui est différent de soi comme un étranger. Je pense que ça commence par ça. J'inviterais tout le monde à relire le roman de Madame Guévremont, Le Survenant. On est tous l'étranger de quelqu'un. Donc, tout va changer en fonction de l'accueil. Et c'est à De Gamma, c'est ce qu'on fait. notre slogan, c'est pour que les immigrants découvrent le Québec de leur rêve.
Voilà.
Le Québec de leur rêve, c'est un peu comme un mariage. T'sais, avant le mariage, tout le monde est beau, tout le monde est fin. La belle famille, la belle-mère est fantastique. Après le mariage, ça se peut qu'il y ait des besoins d'ajustement.
Nathalie, ça a été bien plaisant de vous entendre philosopher ce midi. Merci beaucoup, Nathalie Rochefort.
Merci, bye-bye.
Merci. Alors, merci à toutes et tous d'avoir été de cette émission. Denis Marion, Yann McClure, Charbel Naaman, Albert Kelfa, Sophie Pagé-Sabourin, Gabriel Arpin et Nathalie Rochefort. Merci au polyvalent Jeff Paquet au standard téléphonique. Merci à Valérie Ferland pour son coup de main technique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre tribune.
La tribune.